Voilà, je pense que ça fonctionne, vous m'entendez suffisamment bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, il est 30 pile, donc s'il y a quelques retardataires, hein, comme par habitude, bah, je prends la parole de quelques secondes, ça les permettra s'ils arrivent. J'en profite pour vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de la Galerica, bah, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. C'est une année où il va se passer beaucoup de choses à Galerica. Alors, je ne vais pas vous faire tout le programme parce qu'il va être très long. Simplement, sur quelques éléments structurants, je peux vous dire qu'à partir du mois d'avril, on aura une exposition sur Louis Pasteur. Ensuite, à partir du mois de septembre, une grande exposition autour du thème de la nuit. Et cette année va être marquée aussi par la rénovation de notre espace permanent, l'espace montagne, qui changera de nom pour l'occasion et qui permettra et qui réouvrira en fin d'année à l'occasion de la célébration des 30 ans de la Galerie Eureka. Donc voilà pour les grands éléments structurants de cette année. Pour débuter ce premier rendez-vous entre midi et science de l'année, eh bien nous allons nous intéresser à un des plus grands mystères de l'univers, à savoir que 85% de la matière qui compose le cosmos est quasiment inconnue. C'est une matière apparemment invisible, en tout cas c'est un sujet qui intéresse de pratiquement 50 ans les chercheurs. Et nous avons décidé aujourd'hui eh bien, de se poser quelques questions, à savoir eh bien, est-ce qu'on a des indices vraiment ou des preuves de l'existence de cette matière invisible que l'on appelle la matière noire ? Est-ce une vraie piste de recherche, une fausse piste ? Voilà quelques questions. Où est-où en est justement bah, les connaissances sur ce sujet ? Pour y répondre, bah, nous allons avoir la chance d'avoir deux jeunes chercheurs. Vous préparez tous les deux votre thèse de doctorat dans différents domaines. Alors, j'ai le plaisir, alors, je prends pour pas vous écorcher vos noms, parce que je le fais systématiquement, pourtant on a déjà l'occasion de faire des choses ensemble. Donc, Margot Jemin, vous allez faire votre thèse en physique théorique, un petit peu comme un certain Albert, qu'on ne nommera pas. Et Léo Lemoigne, vous préparez votre thèse en physique expérimentale. Donc je ne rentre pas trop dans vos sujets. On aura l'occasion d'en reparler parce que vous allez participer au concours Ma thèse en 180 secondes. Donc comme ça, vous aurez la prochaine fois 3 minutes pour vous expliquer vos travaux de recherche. Mais ça sera un autre sujet. Pour l'instant, ben, c'est la matière noire qui nous intéresse. Et là, ben, sans plus tarder, je vous donne à tous les deux la parole et le micro.
Alors bonjour à tous. Donc, aujourd'hui... Ok, super. Donc aujourd'hui... de ce grand mystère qu'est la matière noire. Et pour comprendre un peu son origine, on va devoir remonter un peu dans le temps. On va retourner dans les années 70 et on va se mettre dans la peau de Vera Rubin, qui est une célèbre astrophysicienne américaine qui étudiait les galaxies spirales. Donc une galaxie spirale, c'est une galaxie qui a en son centre un trou noir supermassif avec des étoiles qui tournent autour. Et ces étoiles-là, elles n'ont pas toutes la même vitesse, on peut le voir. Et justement, Vera Rubin, elle essayait de mesurer la vitesse de ces étoiles. Mais avant de la mesurer, cette vitesse, on peut la calculer théoriquement en utilisant les lois de Newton. Donc les lois de Newton, c'est les lois qui décrivent la trajectoire de mon micro si je le lâche. Et c'est aussi les lois qui décrivent la dynamique des galaxies. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ces lois fonctionnent. Donc on va s'intéresser à une galaxie, on va choisir une étoile dans cette galaxie. Donc on prend par exemple cette grosse étoile rose et on va essayer de calculer sa vitesse. Donc sa vitesse, elle dépend de plusieurs paramètres. Et l'un d'eux, c'est la masse totale qui est inclue à l'intérieur du cercle formé par sa trajectoire. Donc l'étoile, ça veut dire que l'étoile, elle forme une trajectoire en forme de cercle autour du centre de la galaxie. Tout ce qui est extérieur à ce cercle, on ne le prend pas en compte. Ça ne va pas avoir d'influence sur la vitesse de notre étoile, on s'en fout, on va s'intéresser à ce qui est à l'intérieur. Et la vitesse de l'étoile va dépendre de la masse totale qui est inclue à l'intérieur de ce cercle. C'est-à-dire que si on rajoute de la masse à l'intérieur du cercle, donc soit des étoiles, de la poussière ou du gaz, notre étoile va aller plus vite. Et ce n'est pas le seul effet à prendre en compte.
En effet, donc on a un deuxième effet qui va rentrer en compte quand on étudie la vitesse des étoiles dans les galaxies. Ça va être la distance entre l'étoile qu'on étudie, donc ici on a choisi notre étoile, donc celle-ci, donc la distance entre cette étoile et le centre de la galaxie. Donc plus on va éloigner l'étoile du centre, moins elle va tourner vite. Donc là c'est ce qu'on voit, en prenant une étoile qui est plus éloignée que la précédente, elle va tourner moins vite. Ça c'est un deuxième effet qui rentre en jeu. Par contre quand on a dit ça, il faut aussi bien se souvenir que le premier effet dont on parlait c'est celui de la masse. Et forcément, si on prend une étoile qui est plus loin du centre galactique, le cercle qui traduit la trajectoire de l'étoile va en fait englober plus de matière. Donc on va retrouver plus d'étoiles au centre de, dans, au sein de ce cercle-là, donc plus d'étoiles, de poussière, de gaz, etc. Donc plus de masse. Donc en fait, l'étoile va aussi accélérer. Donc pour comprendre le mouvement des étoiles dans la galaxie, il faut bien comprendre que c'est en fait une balance entre la distance entre l'étoile étudiée et le centre, mais aussi la masse contenue dans ce cercle. Donc maintenant qu'on a vu avec cette petite animation comment ça fonctionne, de quoi dépend la vitesse de l'étoile, des étoiles dans les galaxies, on peut essayer de traduire ça en équation. Donc pour ça, pas de panique, il s'agit donc des lois de Newton. Et donc qu'est-ce qu'elles nous disent, les lois de Newton? Elles nous disent que la vitesse d'une étoile, donc qu'on écrit ici V, va dépendre du rapport entre la masse contenue dans le cercle qui décrit sa trajectoire, donc notre grand M ici, divisé par la distance entre notre étoile et le centre galactique. Donc en fait, ça revient à faire un rapport entre une masse et une distance. Et comme on l'a vu avant sur les animations, si on augmente la masse, donc si on a plus d'étoiles, plus de poussière, plus de gaz, on augmente le grand M, et donc forcément, notre vitesse va augmenter. C'est ce qu'on a vu sur les animations avant. Au contraire, si on augmente la distance, donc si on augmente notre R ici, notre rapport de la masse sur la distance va diminuer, et dans ce cas-là, notre vitesse sera plus petite, notre étoile va aller moins vite. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec les animations, c'est les lois de Newton qui nous disent ça. Donc les lois de Newton, si on revient à l'époque de Vera Rubin, elle les connaissait bien déjà, ces lois. Et Vera Rubin, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle décidait d'observer une galaxie spirale, donc par exemple celle-là. Dans cette galaxie spirale, elle se disait, je vais choisir une étoile. Donc par exemple, on va choisir cette étoile rose, là, en orbite, dans cette galaxie. Et à partir déjà de ce qu'on savait faire dans les années 70, elle était capable de dire, cette étoile que j'observe, elle se situe à telle distance du centre galactique. Donc elle était capable d'évaluer le R dans la formule de Newton. Elle était aussi capable de dire, à partir de la luminosité de notre galaxie, la masse contenue dans le cercle qui traduit la trajectoire de notre étoile. Donc en fait, Vera Rubin, elle était capable de connaître notre grand M et notre petit R. Donc à partir de ça, elle se dit, je vais regarder cette étoile-là, et je m'attends à la voir tourner à la vitesse V qui est prédite par les lois de Newton. Mais alors, est-ce que c'est bien ça qu'elle va observer ?
Eh bien, en fait, pas du tout. Elle a observé des étoiles qui allaient beaucoup plus vite que ce qu'elle pouvait prédire avec les équations de Newton. Donc, c'est pas qu'une étoile isolée. Hein. Toutes les étoiles qui étaient en périphérie de la galaxie allaient beaucoup plus vite que ce à quoi elle s'attendait. Donc maintenant, je vais vous demander de vous mettre à sa place, de remonter dans les années 70 et de vous demander pourquoi. Comment c'est possible ? Si vous êtes Vera Rubin maintenant et que vous faites ces observations, à quoi vous pensez en tout premier ? Est-ce que vous avez des idées ? Qu'il y a plus de masse. Bon, ça, c'est maintenant qu'on connaît la matière noire, on peut penser à ça un peu plus intuitivement qu'à l'époque. Je pense que Vera Rubin, c'est pas ce qu'elle s'est dit directement. Je pense qu'au début, elle s'est dit « j'ai dû foirer ma mesure ». C'est la première chose. Mais il y a eu des vérifications, il y a eu des engins de plus en plus performants. Ça a été confirmé, la vitesse. On peut penser aussi à autre chose, c'est peut-être que nos équations sont fausses. Donc ça, on va le garder dans un petit coin de notre tête, on va y revenir plus tard. Mais effectivement, peut-être qu'il manque de la masse. C'est vrai que si on se dit qu'il y a plus de masse que la masse qu'on observe, notre rapport il va être compensé, il va nous donner une vitesse qui est plus grande. Donc si on a des sortes de petits fantômes qui sont massifs, qui viennent ajouter de la masse à notre équation, c'est logique qu'on ait une vitesse qui est plus grande. Ok, donc est-ce que vous avez bien compris l'origine du problème ? Il y a des questions à propos de ça ?
Dans ce cas-là, si c'est bon pour tout le monde, on vous propose juste une petite pause anecdote afin de souffler un petit peu avant de nous replonger dans l'histoire de la matière noire. Donc cette petite pause anecdote, on va la consacrer à un grand monsieur de la physique qui s'appelait Fritz Zwicky, que vous voyez ici. Donc Fritz Zwicky, c'était un physicien, et dans les années 30, donc 40 ans avant Vera Rubin, 40 ans avant que Vera Rubin propose le concept de matière noire, Fritz Zwicky avait proposé qu'une matière invisible pouvait se cacher dans notre univers entre les galaxies. Parce que Fritz Zwicky, il observait les amas de galaxies à cette époque-là et il voyait des anomalies. Et donc il s'était dit, il y a une matière qu'on ne voit pas. Donc il avait en fait une intuition incroyable parce que 40 ans avant Vera Rubin, il avait déjà pensé à ça. Bon, le problème, c'est que Fritz Zwicky, à cette époque, il avait été un peu ignoré, déjà du fait de son caractère, parce que pour le dire assez franchement, c'était un gros con, Fritzwiki. Il avait tendance à insulter les gens avec qui il travaillait, donc forcément, quand on insulte ses collègues, ils ont pas trop, ils nous aiment pas trop, ils nous aident pas trop à avancer. Et aussi, il était un peu vu comme un fantasque, un fichier fantasque. Parce que bon, Fritzwiki, par exemple, entre autres, il proposait de transformer notre système solaire en un gigantesque vaisseau spatial pour aller coloniser notre galaxie. Donc plein d'idées comme ça qui font que, à l'époque, on l'a pas trop pris au sérieux, et pourtant, c'était un physicien d'exception qui a eu plein d'idées qui a vraiment été un précurseur dans beaucoup de domaines. Donc voilà, c'est le moment de lui rendre hommage. Mais maintenant qu'on a fini cette pause anecdote, on va continuer notre compréhension, notre voyage dans ce qu'est la matière noire.
Voilà, donc maintenant qu'on a normalement bien compris l'origine du problème, on va se demander pourquoi ce serait forcément une matière inconnue. Pourquoi il faudrait forcément rajouter quelque chose. Donc, on entend beaucoup parler de la matière noire, c'est très médiatisé. Ce serait une matière mystérieuse qu'on ne connaît pas et qui interagirait très peu avec tout ce qu'on connaît. Mais pourquoi ce ne serait pas tout simplement de la matière qu'on connaît, mais qui est cachée? Donc il y a beaucoup d'objets astrophysiques qu'on a beaucoup de mal à détecter. Donc il y a par exemple les naines blanches, les étoiles à neutrons, les naines brunes. Tout ça, c'est des étoiles qui sont mortes et qui donc ne rayonnent plus. C'est des cadavres d'étoiles. On a aussi les planètes errantes qui ne rayonnent pas et les trous noirs qui ne rayonnent pas. Tout ça, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les MACHO, pour Massive Astrophysical Compact Halo Object. Et donc voilà, ça c'est des objets qu'on a beaucoup de mal à détecter. On a aussi le gaz. Le gaz froid n'émet pas de rayonnement, donc on a beaucoup de mal à détecter, ainsi que la poussière par exemple. Donc pourquoi cette masse manquante, ce ne serait pas tout simplement ces objets ?
Cette question, on va devoir utiliser un argument qui est très très fort en physique. Donc on va utiliser un outil. Donc cet outil, c'est le fond diffus cosmologique, ou CMB pour Cosmic Microwave Background en anglais. Donc pour comprendre ce que c'est que ce fond diffus cosmologique et comment il nous aide à répondre à la question de pourquoi la matière ordinaire ne peut pas expliquer la présence de matière noire, en tout cas les effets gravitationnels que l'on voit, on va devoir faire un petit voyage dans le temps et revenir 13,8 milliards d'années dans le passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé il y a 13,8 milliards d'années ? Il s'est passé le Big Bang. Donc on ne va pas rentrer en détail sur tout ce qui s'est passé depuis, toutes les différentes phases, l'évolution de notre univers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce moment précis, donc 400 000 années après le Big Bang. Il y a 400 000 années après le Big Bang, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle la recombinaison. On va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire. Donc avant la recombinaison, l'univers était chaud, il était très dense. Donc les particules, donc la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la matière formée d'atomes, n'existait tout simplement pas. Donc il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de chaises, de tables, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'atomes. Ce qu'on avait, c'était donc un univers chaud et dense dans lequel les noyaux, qui sont ici représentés par des plus, qui ont des charges électriques positives, n'étaient pas liés aux électrons, qui sont représentés ici par des moins, parce qu'ils ont des charges négatives. Donc ces noyaux et ces électrons avaient des mouvements chaotiques dans ce qu'on appelle un plasma, en fait. Il n'y avait pas de structure. Donc il y avait ce mouvement chaotique, il y avait des collisions entre ces différents plus et moins. On avait aussi de la lumière, sauf que la lumière, donc les particules de lumière qu'on appelle les photons, qui sont représentées ici par les petits soleils jaunes, donc ces particules de lumière, cette lumière, elle a la caractéristique d'interagir avec les particules, ou en tout cas avec les corps qui sont chargés. Donc ces photons-là n'étaient pas libres de se propager dans l'univers. Ces photons-là, ils interagissaient avec nos plus et nos moins. Donc l'univers, à ce moment-là, était tout simplement noir. Il n'y avait pas de lumière. C'était comme si on avait un espèce de grand brouillard, un brouillard duquel la lumière ne pouvait pas s'échapper. Donc on ne voyait rien, en fait. Et ce qui s'est passé 400 000 ans après le Big Bang, donc ce qu'on appelle la recombinaison, c'est que du fait de l'expansion de l'univers, tout l'univers s'est petit à petit refroidi, les mouvements de ces plus et de ces moins, ces plus et ces moins ont ralenti, et ont commencé à former les premiers atomes. Les plus et les moins se sont regroupés, et donc de ces charges-là sont nés donc les premiers atomes qui sont en fait neutres, parce qu'on associe un plus à un moins, donc on n'a pas de charge électrique. Et la lumière a comme caractéristique de ne pas interagir avec des éléments neutres. Donc à partir de ce moment-là, à partir de la recombinaison, nos petits photons, donc nos particules de lumière, se sont retrouvées libres de se propager dans tout l'univers, puisqu'elles n'interagissaient plus avec nos électrons ou avec nos noyaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la recombinaison, c'est le moment où la lumière s'est retrouvée libre de se propager dans l'univers. Donc c'est là ce qu'on appelle en fait la première lumière dans l'univers. C'est comme si l'univers d'un seul coup s'était allumé. Donc pour ça on peut prendre une petite analogie. C'est comme si on avait eu en chaque point de l'univers une petite ampoule et qu'à un instant, donc l'instant de la recombinaison, toutes ces ampoules s'étaient allumées, libérant des photons, donc des particules de lumière dans tout l'univers, et ces photons vont justement se propager partout. Et c'est justement ces photons-là que l'on peut encore voir aujourd'hui sur Terre et qui nous donnent des informations sur la nature de la matière noire. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Comment est-ce qu'on fait pour encore aujourd'hui voir des particules de lumière qui ont été libérées il y a des milliards d'années ?
Eh bien, on va voir ça tout de suite. Il faut bien comprendre que les particules de lumière, ces photons dans le plasma avant la recombinaison, étaient tellement nombreux que c'est comme si nos petites ampoules imaginaires s'étaient allumées en tout point de l'espace, donc dans tout l'univers, de partout. Ça compose tout l'univers. Et cette lumière, elle met du temps à se propager, donc elle se propage à la vitesse de la lumière. Donc nous, si on se trouve ici, on ne va pas recevoir instantanément la lumière qui a été émise de l'ampoule qui se situe ici. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les rayons qui arrivent jusqu'à nous. C'est émis dans toutes les directions, mais on va se focaliser sur ceux qui arrivent jusqu'à nous. Et donc, cette lumière, on va la recevoir à un temps T1. Et à ce temps T1, on va recevoir la lumière qui provient des ampoules qui sont sur tout ce cercle-là. On va recevoir toute cette lumière en même temps. Et la lumière qui a été émise depuis les ampoules qui sont un petit peu plus loin, on ne l'a pas encore reçue. Elle est en route, elle est sur son trajet. On va la recevoir plus tard, à un temps qu'on va appeler T2. Donc voilà, au temps T2, on reçoit la lumière des ampoules qui sont un petit peu plus loin, mais la lumière qui a été émise des ampoules qui sont encore plus loin, on ne l'a pas encore reçue. Elle est en chemin. On va la recevoir à un instant T3. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on reçoit en permanence cette lumière du fond diffus cosmologique. C'est parce qu'on la reçoit des ampoules qui sont de plus en plus loin. Mais il faut bien comprendre que c'est la même photo qu'on reçoit à chaque moment de l'univers, puisque c'est de la lumière qui provient des ampoules qui se sont allumées au même instant. Donc est-ce que les mécanismes sont clairs ? Est-ce que vous comprenez pourquoi on reçoit en permanence cette photo de l'univers quand il était très très jeune, quand il avait 400 000 ans ? C'est clair ? Ok, super. Donc si c'est clair, maintenant qu'on a compris un peu ça, on va pouvoir se demander quel est le rapport avec la matière noire ?
Pour comprendre ce que peuvent nous apprendre justement ces particules de lumière, ces photons sur la nature de notre univers et sur la matière noire, on va regarder justement à quoi ça ressemble cette photo. Donc en 1965, on a eu la première image du fond diffus cosmologique. On a détecté pour la première fois le fond diffus cosmologique, donc ces photons qui nous viennent de l'époque de la recombinaison. Donc ça, c'est la première image. Donc quand je dis image, donc là il faut bien comprendre que c'est une carte du ciel, c'est tout ce qui nous entoure, donc ça nous vient de toutes les directions dans le ciel. Et donc ce qu'on voit ici, c'est en fait la température des photons qui nous parviennent. Donc au moment de la recombinaison, lorsque les premières particules de lumière sont libérées, l'univers était orange. Donc si on avait été là pour le voir, tout aurait été baigné dans une lumière orange. Bon, il se trouve que entre le moment où les particules de lumière sont libérées et le moment où elles atteignent la Terre, leur température va décroître. Donc aujourd'hui, elles ne sont plus visibles, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'univers n'est pas orange. Elles nous arrivent encore, mais maintenant il s'agit d'ondes radio, donc leur température a beaucoup baissé. Donc ça, c'est une carte de la température de ces photons qui nous arrivent constamment sur Terre. Donc depuis 1965, nos techniques de détection, nos télescopes, etc. ont beaucoup progressé. Donc on a des images beaucoup plus précises, avec des détecteurs beaucoup plus sensibles. Donc notamment, en dernier, donc Planck, qui est une mission qui a été lancée en 2013. Donc c'est un télescope qui est équipé sur un satellite. Donc là, vous avez une photo de ce satellite. Et voici la carte qui nous donne du fond diffus cosmologique. Donc là, quand on regarde cette carte, ça peut paraître un peu étrange, parce que, donc comme je l'ai dit, c'est la carte qui montre la température des photons qui ont été produits au moment de la recombinaison. Sauf que quand on y pense, en fait, ça veut dire que si on reprend notre analogie de tout à l'heure, on prend deux ampoules, donc au moment de la recombinaison, elles s'allument, elles produisent des photons, et comme elles sont situées à la même distance toutes les deux de la Terre, les photons arrivent en même temps. Sauf que si on regarde sur cette carte-là, on voit que la température des photons n'est pas la même partout. Alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'homogène. Si c'est produit au même moment, à la même distance, on s'attendrait à ce que tous les photons, puisqu'ils ont parcouru la même distance et ont été produits au même moment, aient la même température. Et ça, c'est un peu étrange. En gros, ça veut dire que si on a un photon ici qui arrive qui est jaune, celui-là, il est vert. Alors que bon, il n'y a rien qui l'explique a priori. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer les inhomogénéités de la carte du rayonnement fossile? Pour expliquer ça, on peut expliquer ça en disant que certaines des particules de lumière, donc certains photons, au moment de leur émission, enfin au moment de leur libération, donc au moment de la recombinaison, ils se trouvaient dans des zones de surdensité et ces zones de surdensité ont affecté leur température. Donc alors qu'est-ce que c'est qu'une zone de surdensité? En fait, c'est une zone de l'espace où on va avoir un excès de masse. On va avoir plus de masse qu'ailleurs. Donc plus de masse dit plus d'effets gravitationnels. Et si ces photons sont libérés dans un endroit où on a des effets gravitationnels, enfin, on a ces effets gravitationnels-là, et ben ça va affecter leur température et ça explique justement que cette carte ne soit pas homogène. Donc là, je passe au silence certains effets, c'est pas la seule raison, mais c'est la raison principale, en tout cas, de ces inhomogénéités. Mais là, ça peut paraître bizarre, en fait, parce que je suis en train de vous dire qu'on a plus de masse, donc des effets gravitationnels, donc une différence de température au moment de l'émission, enfin au moment de la libération de ces photons. Sauf qu'on vous a dit avant que, avant la recombinaison, la matière telle qu'on la connaît n'existait pas. Il n'y avait pas d'atomes. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer en fait qu'au moment de la recombinaison, on avait ces surdensités? S'il n'y avait pas d'atomes, s'il n'y avait pas de structure connue, donc il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste nos plus et nos moins, nos électrons et nos noyaux qui étaient dans ce plasma et qui s'entrechoquaient dans tous les sens. Et bien ça, on peut l'expliquer en introduisant justement cette matière noire, une matière inconnue qui a comme caractéristique de ne pas interagir ou de très peu interagir avec la matière que l'on connaît. Donc la matière que l'on connaît avant la recombinaison, elle est bercée dans ce, enfin elle est dans ce plasma où elle interagit, donc on a les particules de lumière, les électrons et les noyaux qui se rentrent dedans, qui ne peuvent pas former de structure, tandis que la matière noire, elle n'interagit pas avec tout ça et commence déjà à se regrouper en structure, créant donc des surdensités dans des endroits où on a plus de masse qu'ailleurs. Et si, au moment de la recombinaison, une particule de lumière est produite dans une de ces surdensités-là, ça va affecter sa température et ça explique donc les inhomogénéités de notre carte de fond diffus cosmologique. Donc à noter aussi que ce sont ces surdensités-là, qui existaient donc avant même la création des premiers atomes, qui expliquent la formation des galaxies et qui expliquent aussi les effets gravitationnels que l'on peut voir aujourd'hui dans notre univers, que Vera Rubin a vu par exemple dans les années 70. Donc ça nous amène à dire en fait que l'argument du fond diffus cosmologique, c'est un argument très fort parce que c'est la preuve que les effets gravitationnels que l'on voit aujourd'hui existaient en fait avant la libération des photons et donc existaient avant même la formation des premiers atomes et donc avant même forcément la création des premières planètes, des premières étoiles. Donc ça nous dit que ce qu'on voit aujourd'hui ne peut pas être dû à la matière ordinaire puisque la matière ordinaire n'existait juste pas du tout à cette époque. Ces effets-là existaient avant que la matière ordinaire soit créée. Donc l'argument du fond diffus cosmologique nous montre que les maths chauds dont a parlé Margot avant ne résolvent pas notre problème, ne peuvent pas expliquer ce que Vera Rubin voyait à l'époque. Au contraire de la matière noire, puisque la matière noire, elle permet de rendre l'histoire très cohérente en fait. Toujours en se basant sur le fond diffus cosmologique, on peut estimer la masse de matière noire comme 85% de la masse de notre univers. C'est-à-dire que 85% de la masse de l'univers nous est encore inconnue. Alors que tout ce qui nous compose, donc toute la matière ordinaire, donc vous, moi, cette table, n'importe quoi, les étoiles, tout ça, ce n'est que 15% de la masse de l'univers, en fait. Et quand on inclut ces prédictions-là, enfin ces quantités-là, dans des simulations qui nous montrent l'évolution des galaxies, qui nous montrent l'évolution de notre univers, on arrive à ce genre de résultat. Donc en arrière-plan, c'est ce qu'on appelle la toile cosmique, c'est-à-dire c'est la répartition des densités de masse dans l'univers, qui est faite justement à partir de ces modèles de matière noire-là, et tout ça, ça rend très bien compte en fait des observations qu'on fait aujourd'hui. Donc ça nous montre que la matière noire permet d'expliquer l'évolution de l'univers, là où la matière dite normale ne peut pas, tout simplement, puisqu'elle ne peut pas rendre compte des effets que l'on voit aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est clair, cette partie-là? Est-ce que...
Alors, en fait, c'est complexe, il y a plusieurs effets qui viennent se compenser. Il y a beaucoup d'effets qu'on passe sous le tapis, mais le fait de rentrer dans une surdensité, ça va augmenter la température. Mais en fait, il faut aussi prendre en compte l'expansion de l'univers dans tout ça. Et donc, la lumière qui va passer par des surdensités va, en gros, parcourir plus de chemin, et donc, sa température va être affectée dans l'autre sens aussi. Et donc, au final, on a plusieurs effets. C'est très complexe, mais il y a plusieurs effets qui se compensent.
C'est ça, en fait, c'est beaucoup d'effets qui vont se compenser, mais s'il faut sortir d'une surdensité, ça va demander de l'énergie, donc la lumière, la température va baisser. Mais bon, il y a d'autres effets, mais ça va demander de l'énergie quand même. De l'énergie, donc ça va baisser la température. Bon, si c'est à peu près clair l'argument de pourquoi ça ne peut pas être de la matière normale, de la matière commune, pour expliquer justement ces effets gravitationnels, on va devoir passer à une autre explication.
Donc pour la petite anecdote, le fond diffus cosmologique, en fait, il a été découvert par hasard et au tout début, il a été confondu avec du caca de pigeon.
En effet, donc on avait Penzias et Wilson, donc deux physiciens, qui travaillaient sur un tout autre sujet, donc ils travaillaient sur une antenne comme ça, et ils avaient un bruit de fond. Donc en 1964, ils avaient un bruit de fond, un espèce de bruit parasite qu'ils ne comprenaient pas. Et donc ils ont pensé à plusieurs explications. Ils se sont dit, bah, peut-être que c'est des pigeons avec leur fiente qui créent ce parasite. En fait, donc ils sont allés sur leur antenne, ils ont nettoyé, et non, le bruit de fond parasite était toujours là. Et en fait, au bout de quelques mois, ils se sont rendu compte qu'ils avaient tout simplement détecté le fond diffus cosmologique. Et donc pour ça, ils ont tous les deux eu le prix Nobel en 1978. Donc comme quoi, c'est pas toujours la faute des pigeons.
Ok, donc on a vu qu'il y avait déjà des effets gravitationnels étranges bien avant, donc au moment de la recombinaison, au tout début de l'univers. Il y avait déjà ces effets gravitationnels, et donc ces effets gravitationnels, ils ne peuvent pas être expliqués par la matière qu'on connaît, par les machos, par le gaz, par la poussière. Ok, mais c'est peut-être un peu facile d'ajouter une nouvelle matière, une matière inconnue, pour résoudre tous nos problèmes, comme par magie. Ça nous arrange bien parce que ça nous évite de remettre en question nos connaissances, ça nous évite de remettre en question nos modèles théoriques, mais peut-être qu'en fait c'est ça la clé du problème. Peut-être qu'il faut changer nos lois, peut-être que nos équations de Newton, on a vu tout à l'heure, elles sont tout simplement pas bonnes. Et donc il y a des physiciens et des physiciennes qui se sont un peu penchés sur la question et qui ont développé des théories alternatives à nos théories actuelles. On appelle ces théories les théories mondes pour Modified Newtonian Dynamics. Donc l'histoire nous a montré que cette approche-là, elle pouvait fonctionner. On a l'exemple de l'orbite de Newton, de Mercure, pardon. Il y avait un petit décalage entre l'orbite de Mercure qu'on pouvait calculer avec notre théorie et l'orbite de Mercure qu'on mesurait. Donc il y a le clan des physiciens et des physiciennes qui se sont dit peut-être que c'est une planète, une nouvelle planète qui vient perturber l'orbite de Mercure. Et il y a le clan d'Einstein qui s'est dit bah non, en fait peut-être que c'est notre théorie qui est pas bonne. Ils ont développé la relativité générale et bah, ça marche plutôt pas mal maintenant. Donc l'histoire nous a montré que cette approche pouvait fonctionner, pourquoi pas dans ce cas-là. Et en effet, il y a des théories qui ont été développées et qui permettent très bien de décrire la dynamique des galaxies aujourd'hui. Ces modèles-là peuvent faire des prédictions extrêmement précises sur la vitesse des étoiles dans toutes les galaxies. C'est même assez troublant, ça marche extrêmement bien. Donc à l'échelle des galaxies, on peut expliquer la dynamique en changeant nos lois de la gravité.
Alors ça marche bien, oui, mais pas partout, et il y a un gros mais. Donc pour expliquer pourquoi ces théories de gravité modifiées ont certaines limites, on va prendre un exemple très connu, donc certainement l'un des plus fameux, celui du bullet cluster. Donc qu'est-ce que c'est que le bullet cluster? C'est une collision entre deux amas de galaxies. Donc un amas de galaxies, c'est un regroupement de galaxies. Donc là, sur l'image, on a deux amas de galaxies qui se rendent dedans. Donc je précise que cette image, c'est pas une vraie image, donc c'est une image composite, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types de rayons, on a des rayons X, on a de l'optique, etc., et tout est collé. Donc si on pouvait voir ça nous-mêmes, on ne verrait pas exactement ça. Mais c'est juste pour rendre compte un peu de ce qui se passe. Donc si on essaye d'analyser un peu cette image, qu'est-ce qu'on voit? Au centre de l'image, on voit des rayons lumineux, donc on voit la matière en fait. Donc au moment où ces deux amas de galaxies se rendent dedans, la matière est freinée et donc on va retrouver ici les galaxies, les étoiles, le gaz, la poussière, etc. Donc visuellement, avec nos instruments, avec nos télescopes, on peut dire la matière se trouve ici. Par contre, si on regarde ces lignes ici, ce sont des profils de densité de masse. Donc c'est un peu comme sur les cartes IGN quand on a les profils d'altitude, les cartes d'altitude. Donc ça veut dire que ici, au centre du rond, on a plus de masse, et plus on s'éloigne de ce centre du rond-là, moins on a de masse. Donc ça, c'est un peu étrange, c'est un peu contre-intuitif, parce que si on regarde cette carte, on se rend compte que la matière est au centre de l'image, tandis que la masse, elle est décalée par rapport à là où on voit la matière. La masse, elle est décalée ici et ici. Donc ça peut paraître un peu étrange, et en fait, ça, les théories de gravité modifiée ne permettent pas de l'expliquer. Théorie de gravité modifiée, en tout cas pour le moment, ne permettent pas d'expliquer pourquoi ce profil de cette masse, cette concentration de la masse-là, est décalé par rapport à là où se trouve la matière. Alors que la matière noire, elle, permet très bien d'expliquer. Donc comment est-ce que la matière noire permet d'expliquer? Pour ça, on peut prendre une petite analogie. On va prendre un passage piéton. On a deux foules des deux côtés du passage piéton. Et au moment où le feu piéton passe au vert, les foules vont vouloir traverser. Et au moment où elles vont traverser, elles vont se rentrer dedans. Et quand elles vont se rentrer dedans, forcément, elles vont être ralenties, il va y avoir des collisions entre elles. Donc on peut représenter ça comme ça. Donc là, on a notre passage piéton, on a deux foules. Bon, c'est pas des foules, c'est deux personnes, mais c'est pour expliquer. Donc on a nos deux personnes qui traversent et qui se rentrent dedans, qui sont ralenties, qui se retrouvent bloquées au milieu du passage piéton. Par contre, si ces deux personnes sont accompagnées d'un petit fantôme qui a comme caractéristique de ne pas interagir, c'est-à-dire de pouvoir traverser la matière ordinaire, et ben ces petits fantômes, ils vont pas du tout être arrêtés, ils vont continuer leur route. Donc là, voilà, les deux personnes se retrouvent arrêtées au milieu, tandis que les petits fantômes, eux, ils continuent. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut expliquer les observations du bullet cluster. Au centre de l'image, on a les galaxies qui se rentrent dedans, la poussière et tout ça se collisionne, donc tout est ralenti ici, tandis que la matière noire qui n'interagit pas ou très peu, eh ben, elle continue son voyage, et c'est pour ça que le profil de masse se retrouve décalé par rapport à la position de la matière. Parce que la matière noire représente la plus grande quantité de matière, donc, enfin la plus grande quantité de masse, donc la masse est décalée par rapport à la position de la matière. Donc ça, c'est l'explication du bullet cluster, et les théories de gravité modifiée ne permettent pas de l'expliquer, alors que la matière noire permet de l'expliquer très bien. Donc c'est une des limites, c'est parmi d'autres, de nos théories de gravité modifiée actuellement.
Est-ce qu'il y a des questions à propos du bullet cluster? Est-ce que c'est bien compris? Ouais. Alors c'est fait avec une technique qu'on appelle l'antigravitationnelle. Donc on peut les... Ouais, on y revient à la fin.
On y reviendra dans la partie discussion parce qu'on retrouvera cette technique-là un peu plus tard.
Ouais, on a une petite image en plus qui explique bien cette technique. Donc... Ouais, c'est très...
On garde ça en tête, on y revient après.
Ouais, ok. Bon. Donc finalement, en fait, les théories de gravité modifiées, elles fonctionnent très bien pour décrire la dynamique des galaxies, mais quand on passe à l'échelle des amas de galaxies, quand on passe à une échelle plus grande, ça marche plus. Il y a d'autres limites. En tout cas, pour l'instant, c'est incomplet. Alors que la matière noire, depuis le début, tous les problèmes qu'on a évoqués, la matière noire permet de les expliquer et permet d'avoir une histoire cohérente de l'univers. Donc tout est décrit de manière très cohérente si on ajoute de la matière noire et qu'elle a toujours été là. Elle a été là dès les premiers instants de l'univers. Donc finalement, c'est pas si saugrenu d'ajouter cette matière. Mais il nous reste un petit souci, c'est quoi en fait cette matière ? Quelle est sa nature? Donc, on la cherche depuis les années 70 et on a plusieurs pistes. Une des pistes, c'est les trous noirs. Donc, normalement, si vous avez suivi, on a exclu cette hypothèse. Ça faisait partie des machos, ce qu'on a appelé les machos. Ça faisait partie des objets qui étaient créés après le fond diffus cosmologique, après l'émission du fond diffus cosmologique. Et donc, on l'avait exclu en disant qu'il y avait déjà des effets gravitationnels avant. Ça, c'est vrai pour les trous noirs dont l'origine est l'effondrement stellaire, c'est-à-dire une étoile qui meurt et qui implose pour former un trou noir. Mais il y aurait potentiellement, on n'en est pas sûr, d'autres types de trous noirs qu'on appellerait les trous noirs primordiaux et dont l'origine serait donc primordiale, c'est-à-dire que ces trous noirs se seraient formés au tout premier instant de l'univers, encore avant la recombinaison, donc vraiment quand l'univers était très très dense, très très chaud, et en fait ils se seraient formés à partir des petites fluctuations de densité dans le plasma très très chaud. Donc ces fluctuations de densité, ce serait quelque chose d'aléatoire. Et donc les trous noirs se seraient formés à partir de ça. Et donc ils auraient été là dès le début, donc ils pourraient expliquer nos observations du fond diffus cosmologique aujourd'hui. Ils pourraient expliquer la formation des galaxies. Ils pourraient tout décrire. Donc pourquoi pas? Donc ça, c'est un champ de recherche qui est très jeune. Donc on n'a pas de conclusion là-dessus, mais on a des premiers résultats qui nous disent, on a en fait des contraintes qui nous disent que ça ne pourrait sûrement pas expliquer la totalité de la masse manquante. Donc il faudrait quand même quelque chose d'autre. Et donc on en arrive à l'hypothèse un peu star, l'hypothèse sur laquelle on a investi beaucoup d'argent depuis très longtemps, c'est l'hypothèse d'une nouvelle particule inconnue.
Donc une particule, déjà qu'est-ce que c'est qu'une particule ? Une particule, c'est un corps élémentaire, donc peut-être que vous connaissez par exemple l'électron. Donc, l'électron, c'est une particule qui constitue la matière que l'on connaît. Donc la matière noire pourrait être une particule inconnue, qu'on n'aurait encore jamais croisée, jamais détectée, ou une particule, ou d'ailleurs une famille de particules. Et cette particule, elle aurait comme caractéristique d'être neutre, donc, c'est-à-dire elle n'aurait pas de charge électrique, elle n'interagirait pas avec la lumière, elle serait stable, c'est-à-dire que il y avait de la matière noire il y a très longtemps, il y en a encore aujourd'hui, donc elle serait encore là, et elle serait froide. Et ça, cette particule, donc c'est en fait le candidat le plus probable pour expliquer la matière noire, puisqu'elle permet de rendre compte de tous les effets dont on a parlé juste avant. Sauf que cette particule, encore faut-il la trouver. Et donc comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a dit que c'est peut-être une particule, en fait on a dit beaucoup, mais on n'a pas dit grand-chose non plus, parce que cette particule, il faut la caractériser. Donc pour ça, ça revient un peu à jouer un espèce de grand jeu de qui est-ce. Donc on a plusieurs profils pour la matière noire, et l'idée, ça va être de tester ces profils-là dans des expériences, de pouvoir dire si c'est celle-là ou c'est pas celle-là, de pouvoir en exclure en fait. Et donc, pour exclure ces particules, ces différents candidats à la matière noire, on a plein d'expériences. Vraiment, il y a des centaines, des milliers d'ingénieurs, de physiciens, de physiciennes, de techniciens et de techniciennes qui travaillent sur des expériences partout dans le monde. Donc, sur des accélérateurs de particules, comme le LHC, par exemple, au CERN, sur des télescopes, les télescopes qui vont aller sonder des zones de l'espace où on s'attend à ce qu'il y ait plus de matière noire qu'ailleurs et trouver des signatures pour essayer de mettre en lumière certaines caractéristiques de ces particules. On va aussi utiliser des méthodes plus directes pour essayer de les trouver, ces particules. Par exemple, on va prendre des cuves, on va les remplir avec du liquide et puis on va attendre voir s'il se passe quelque chose. Et on se dit, bah, peut-être qu'on va voir un signal qu'on ne connaît pas encore. Et puis on va aussi aller traquer les trous noirs primordiaux avec des interféromètres en allant détecter les ondes gravitationnelles. Donc on ne rentre pas dans le détail de toutes ces techniques-là, on peut en discuter après si ça vous intéresse, mais c'est juste pour dire que la matière noire en tant que matière inconnue, c'est vraiment le candidat le plus probable et c'est celui dans lequel, en tout cas, il y a le plus d'argent et le plus de temps investi à travers toutes ces expériences et plein de méthodes différentes et toujours plus ingénieuses les unes que les autres. Sauf que pour l'instant, on n'a rien. On n'a pas de traces de la matière noire. Et pourtant, ça fait des années et des années qu'il y a de la recherche là-dedans, et il n'y a toujours aucune détection, aucune piste, aucune détection qui pourrait amener à la découverte d'une nouvelle particule. Donc c'est pour ça que toutes ces pistes-là, nos trois pistes principales, donc une particule inconnue, les trous noirs et modifier les équations, il faut toutes les investiguer parce que on n'a pas encore de candidat vraiment probant. Donc une particule, ça reste quand même toujours, comme on l'a dit, notre meilleure piste, mais il ne faut pas non plus mettre de côté les trous noirs, même si c'est un domaine vraiment encore très nouveau et qu'on ne sait même pas si ça existe. En fait, les trous noirs primordiaux, il ne faut pas les oublier. Et il ne faut pas non plus oublier que certains physiciens et physiciennes essayent de changer les théories pour peut-être un jour sortir une théorie qui expliquerait tout sans avoir besoin de la matière noire.
Voilà, donc si on fait un petit état des lieux de la recherche sur ce sujet aujourd'hui, on a principalement deux grosses hypothèses. On a d'abord l'hypothèse de la masse manquante, donc qui pourrait être une particule, des trous noirs primordiaux ou quelque chose d'autre auquel on n'a pas encore pensé, pourquoi pas. Donc cette hypothèse, cette théorie est extrêmement puissante puisqu'elle permet d'expliquer tout l'univers, toute l'évolution de l'univers de manière très cohérente, dès ses débuts. Donc elle permet d'expliquer tous les phénomènes cosmologiques, on a vu le fond diffus cosmologique, elle permet d'expliquer la formation des galaxies, comme nous le montrent les différentes simulations, et elle explique aujourd'hui la dynamique des galaxies. Ok, elle explique tout ça, mais de manière, pour certains aspects, un peu imparfaite, comme la dynamique des galaxies, où les simulations sont également imparfaites. On pourra en discuter après si ça vous intéresse, mais le problème majeur de cette hypothèse, c'est tout simplement qu'on ne trouve pas la matière noire pour l'instant. Ça fait un petit moment qu'on la cherche, ça fait un petit moment qu'on investit beaucoup, beaucoup pour la trouver et qu'on ne la trouve pas. Et de l'autre côté, on a les théories de gravité modifiée qui, elles, fonctionnent extrêmement bien à l'échelle de la dynamique des galaxies, qui font des prédictions vraiment très précises et qui, pour le coup, sont plus satisfaisantes, donnent un résultat plus satisfaisant que l'autre hypothèse. Mais aux autres échelles, bah, ça ne fonctionne plus, en tout cas pour l'instant. Et donc, elle ne permet pas de décrire l'évolution de l'univers. Pas encore. Il faut quand même investir du temps là-dedans, mais pour l'instant, c'est pas 100% satisfaisant. Donc, bah, voilà, on espère que, avec cette petite présentation, vous avez compris pourquoi la matière noire est un enjeu majeur aujourd'hui de la physique. Donc, il nous manque une pièce au puzzle. On a plein de pistes pour l'explorer. Pour découvrir quelle est cette pièce manquante. Et donc voilà, maintenant que vous avez toutes les clés en main pour discuter, et ben, discutons.
Voilà, donc le principe de nos cafés débat, bah, c'est de pouvoir échanger avec le public. Donc moi j'ai eu cette espèce de bâton de témoin que je vais faire circuler dans la salle pour engager bah, justement le débat avec le public. Alors merci infiniment pour cette présentation. Qui veut se lancer dans la première question?
On va peut-être commencer par la lentille gravitationnelle pour expliquer comment le profil de densité de masse...
Donc voilà, la technique de l'antigravitationnelle pour repérer où se situe la masse sans voir cette masse, ça fonctionne comme ça. En fait, quand on a un corps massif dans l'espace, il va déformer l'espace-temps autour de lui. Et donc les rayons lumineux, ils vont plus se propager en ligne droite, ils vont se propager avec une trajectoire qui est déviée. Donc en fait, si on a un astre qui est derrière ce corps massif, il va émettre de la lumière dans toutes les directions, mais la lumière qui est émise ici et la lumière qui est émise ici, on va la voir. Et donc ça veut dire qu'on va voir, nous, un objet qui se situe ici et un objet qui se situe ici. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas? Donc en fait, on va voir l'objet en deux fois. et au mauvais endroit. Et donc on se dit, ah bah cet objet-là, on le voit en deux fois, c'est qu'il y a un corps massif entre nous deux qui déforme l'espace et on peut estimer la masse de ce corps massif. Bah, en fait, ça représente tellement de masse, c'est énorme. Comme on a vu, ça représente 85% de la matière de deux amas de galaxies, donc c'est assez précis pour avoir un profil de densité.
Attends, j'arrive avec le micro. Comment est-ce qu'on est sûr que c'est un objet et pas deux ?
Ah bah ça, on voit que c'est la même, on voit que c'est le même objet qui a les mêmes mouvements. Je sais pas exactement.
Oui, aussi en fait c'est un peu tout le problème de la matière noire, c'est qu'à la base on voit qu'il y a des effets et en fait on sait pas ce qui les crée. On sait pas si c'est. Ah oui, bah, sur ces deux étoiles, ça c'est vraiment de la reconstruction. Après, il y a des simulations, il y a vraiment des images. On peut chercher des images de si ça vous intéresse, je vous conseille de chercher des images de l'antigravitationnel parce que ça, c'est assez impressionnant de voir vraiment les deux images des deux côtés. Ça se voit très bien et bon, par reconstruction, ils font ça très très bien, c'est assez impressionnant.
Et puis aussi, on connaît, enfin, tout bouge en fait. Et donc, cet astre-là, on peut le voir à un autre endroit en temps normal et voilà. Avec tout ça, on peut voir que c'est pas la réalité, c'est pas deux objets différents.
Merci à vous deux déjà pour cette présentation très claire et très intéressante.
Avec plaisir.
Deux petites questions. La première, c'est Léo, à un moment tu as dit que la matière noire était une particule froide. Comment on sait que c'est froid ?
Alors en fait, froide, ça veut pas dire froid dans le sens où on l'imagine. En fait, froid, ça veut dire qu'au moment de la formation des galaxies, cette particule était déjà ralentie. En fait, on dit qu'elle était plus relativiste, elle était plus très rapide. Parce qu'en fait, si on a une particule qui est extrêmement rapide, elle va lisser un peu les structures. Et donc, les petites structures, bon, ici les petites structures, c'est les galaxies, les petites structures vont être lissées. Est-ce que c'est clair ou pas? En fait, le parcours moyen d'une particule va être beaucoup plus grand, et donc on va avoir les grandes structures qui vont se former avant les petites structures, c'est-à-dire les amas de galaxies avant les galaxies, en gros. Et ça correspond pas à ce qu'on peut faire avec les simulations. Donc en fait, froide, ça veut juste dire qu'elle était lente au moment de la formation des galaxies.
D'accord, merci. Moi, j'avais compris froid contre chaud.
Et ça, c'est super intéressant parce qu'on avait un très bon candidat à la matière noire au début, une particule qui s'appelle le neutrino. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Donc, c'est une particule qui correspond bien aux caractéristiques de la matière noire puisque cette particule est neutre. Elle est très difficile à détecter. Mais en fait, elle a une masse extrêmement faible et donc elle est extrêmement rapide. Et donc, avec le neutrino, on ne peut pas simuler l'univers, on ne peut pas arriver à de bonnes simulations de l'univers puisque elle était trop rapide au moment de la formation des galaxies et elle n'a pas pu former des petites galaxies, enfin des galaxies en fait.
Merci. Et deuxième petite question, vous pouvez nous rappeler votre âge ?
Ah, venir.
24 ans.
Bah, 24 aussi. Tu fais passer le micro.
Bonjour, et déjà aussi bonjour. Je suis admirative de voir des beaux petits jeunes comme ça avec un cerveau bien fait.
Moi, merci, c'est gentil.
Ma question c'était de savoir, quand on aura trouvé de quoi est composée cette matière noire, est-ce qu'il y aura des applications ? Est-ce que vous avez des projets pour sauver la planète, je ne sais pas quoi, quelque chose ?
Eh ben, c'est une excellente question, en fait, tu veux répondre ou pas ?
Un peu tout ça, moi.
En fait, c'est compliqué. On peut pas savoir avant de. On connaît pas la nature, donc on peut pas savoir ce qu'on en fera. Mais c'est tout. C'est comme ça que ça marche en recherche fondamentale. Par exemple, la physique quantique. Au début, on pouvait pas prévoir les applications. On faisait juste de la recherche fondamentale. Et avec ce qu'on a découvert en physique quantique, et ben maintenant, on en a dans tous les téléphones, on en a dans toutes les technologies, on en a en médecine aussi. Donc, en fait, les applications, ça vient vraiment après les découvertes. Et c'est pour ça que c'est pas toujours très bien financé, la recherche fondamentale. C'est parce qu'il n'y a pas d'application directe, c'est pas directement utile à la société. Mais ça l'est, ça le sera, on vous promet.
J'ai une petite question. Si on avait beaucoup d'argent ici dans cette salle à vous donner, quelle expérience, sans limite d'argent, quelle expérience vous pourriez imaginer pour essayer de découvrir enfin cette matière noire ?
Les expériences.
Alors, il y a plein de types d'expériences différentes. Il y a celle de la détection directe, c'est une expérience qui s'appelle Xénon. On a une espèce de grosse cuve comme ça. Donc là, on retrouve cette cuve ici. Et dans cette cuve là, on met un certain liquide. Et donc, on se dit que si une particule de matière noire passe, on devrait avoir une signature qu'on ne connaît pas. Elle devrait taper dans des atomes qui sont dans ce milieu là. Si on suppose qu'elle interagit peu, si elle interagit pas, non, mais si on suppose qu'elle interagit peu, elle devrait cogner dans un atome et ça devrait créer un signal électrique. Donc ça, c'est vraiment la technique un peu la plus bourrin pour détecter la matière noire. On met des volumes et on se dit, il va se passer quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment se dire, la Terre, c'est une cible. C'est se dire, on est entouré de matière noire, la Terre, c'est une cible. Donc vu qu'on est une cible, on est traversé par de la matière noire. Donc peut-être qu'à un moment, on peut avoir une signature de ça. Donc ça, c'est construit sous une montagne. C'est assez gros, mais si on avait un budget illimité, on pourrait faire des cuves absolument immenses et se dire, plus on augmente le volume de la cuve, plus on a de chances d'avoir une détection d'une particule de matière noire. Donc, c'est vraiment beaucoup de sous à mettre dedans. Après, c'est toujours un risque, en fait, la matière noire, parce que ça se trouve, c'est pas une particule, ça se trouve, c'est des équations qui sont fausses. Et dans ce cas-là, on investirait des milliards pour remplir des cuves pour rien du tout. Et puis, ça se trouve, elle n'interagit pas. Et dans ce cas-là, on remplirait des cuves, on dépenserait des milliards pour remplir des cuves où il se passera rien. Donc, dire exactement dans quelle direction partir, c'est un petit peu compliqué. C'est une méthode. Peut-être aussi développer plus des télescopes pour regarder vraiment des zones particulières dans le ciel. Ou alors, en tout cas, prendre plus de temps pour regarder des zones particulières dans le ciel. Et c'est, le problème, c'est que pour l'instant, on a plein de pistes. Donc, c'est un peu difficile de se diriger vers une piste en particulier. Et l'idée, en tout cas, moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que si on avait plein d'argent, ce serait de pas le mettre tout dans un seul et même projet. Ce serait d'explorer différentes pistes. Parce que la matière noire, c'est un peu, on fait des paris dessus. Et donc pour faire ces paris, ce serait bien de pas justement mettre tout l'argent à un endroit et de vraiment diversifier pour essayer d'aller chercher dans toutes les directions, parce qu'on n'est pas sûr de ces caractéristiques.
Bon, une question très naïve sans doute, mais parmi toutes les particules que le CERN a découvertes dans ses collisionneurs, telles que le muon, le boson, etc., il n'y a aucune de ces particules qui pourrait expliquer en quoi est composée la matière noire ?
Non, en fait, il n'y en a aucune qui a les bonnes caractéristiques pour. Donc, on a vu que les principales caractéristiques de cette matière, c'est qu'elle doit être neutre. Et donc, des particules neutres, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, elle doit être stable. Et ce qu'on repère au LHC, c'est plutôt des particules qui vont se désintégrer très très vite, qui ne peuvent pas former de structure. Donc en fait, cette particule, elle doit mettre beaucoup de temps à se désintégrer, parce que sinon, on n'aurait plus de galaxies. Enfin, elle serait plus présente dans les galaxies aujourd'hui. Et donc, une particule qui a toutes ces caractéristiques-là, non, on n'a pas encore détecté au CERN.
Mais justement, c'était un des objectifs du CERN, c'était d'essayer de mettre en évidence une signature d'une particule qu'on ne connaîtrait pas. Ça n'a pas été le cas, et c'est aussi l'objectif du projet de futur accélérateur du CERN, d'essayer de mettre justement, d'essayer de débusquer, d'aller encore plus loin dans notre connaissance, d'aller dans des domaines d'énergie qu'on n'a jamais encore explorés, et de se dire peut-être que dans ces domaines-là d'énergie, on pourrait retrouver ces particules de matière noire. Ça reste encore, c'est pareil, c'est un pari, c'est comme toutes les expériences, c'est un pari, mais c'est un des objectifs avec les accélérateurs. C'est encore une autre technique pour essayer de débusquer cette matière noire.
Dans notre système solaire, le mouvement des planètes s'explique parfaitement par application des lois de Newton. Alors, reste à dire que la matière noire n'existe pas dans notre système solaire. Il n'y a pas de... Est-ce à dire que la matière noire n'existe pas dans le système solaire, puisque le mouvement des planètes s'explique par les lois de Newton, alors que la matière noire devrait perturber un peu le mouvement des planètes?
Alors, en fait, pas vraiment, parce que la matière noire, elle va agir à très grande échelle, mais à l'échelle locale, c'est comme dire le fait qu'on ait un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Nous, on tourne quand même autour du Soleil. C'est des effets, en fait. Donc le système solaire, il va avoir des effets localement sur nous. Donc ça va marcher localement, mais la matière noire va intervenir à des plus grandes échelles. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est les effets locaux. Est-ce que c'est clair ou...
Oui,
Oui, bah, voilà.
Et peut-être que si on imagine des extraterrestres qui sont dans une autre galaxie et qui nous regardent, ils peuvent peut-être regarder notre système solaire, notre étoile, et se dire, bah, celle-là, elle tourne. Il y a peut-être de la matière noire qui montre que sa vitesse de rotation ne suit pas les lois de Newton. Mais ça, on ne peut pas le voir, nous, depuis notre point de vue. On peut voir les autres galaxies. Mais de ce qu'on voit, nous, les lois de Newton expliquent bien tout.
C'est le fait que le Soleil, localement, a plus d'effet que la matière noire. Et donc, on va suivre plus les lois du Soleil que les lois de... Enfin... Ouais.
Vous parliez de que nos lois, elles n'étaient pas bonnes. Enfin, c'était une des théories. Monde. Ça en est où? Est-ce que, par exemple, la théorie des cordes en fait partie?
Alors, la théorie des cordes, elle est encore en cours de... On n'a pas de résultats pour l'instant au niveau de la théorie des cordes, mais c'est encore très développé, oui. Alors, en fait, la théorie des cordes, elle nous dit qu'il y aurait plus de dimensions. Nous, on sait qu'on a quatre dimensions, trois dimensions d'espace, une dimension temporelle. Et en fait, la théorie des cordes, elle nous dit que l'univers serait fait de petites cordes avec des dimensions enroulées. Et donc que la gravité, en fait, pourrait se cacher dans ces cordes-là, et donc on n'y aurait pas accès. Et donc c'est une théorie qui est très intéressante et qui est très développée, même dans nos laboratoires, il y a ça. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultats. Ouais, ok, donc il y en a. Il y a une théorie de gravité modifiée qui permet de reproduire très bien ce qu'on observe du fond diffus cosmologique. On a dit tout à l'heure que ça ne marchait pas pour les phénomènes cosmologiques. Okay. Et ben pour l'instant, on a une théorie, donc, ça a été publié très récemment, donc c'est en cours. On a une théorie qui reproduit très bien ce qu'on appelle les pics du fond diffus cosmologique, qui reproduit très bien ce qu'on observe du fond diffus cosmologique. Mais avec cette théorie, on n'arrive toujours pas à reproduire la dynamique à l'échelle des amas de galaxies. On n'arrive toujours pas à expliquer la formation des galaxies. Mais ça progresse. Au début, on n'avait pas ça du tout. On ne pouvait pas du tout expliquer ce qu'on voyait 400 000 ans après le Big Bang avec des théories de gravité modifiées. Donc, oui, là, pour l'instant, ça progresse. Ce n'est pas encore satisfaisant. Mais ça le sera peut-être. Donc, on discutait avec un physicien avant-hier, qui nous disait que s'il y a peut-être un Einstein bis qui arrive et qui nous pond sa théorie, qui résout tout, bah, on aura investi beaucoup pour... J'en doute. On va essayer.
La littérature scientifique parle aussi d'énergie noire. Alors, quel est le lien entre matière noire et énergie noire, s'il y a une corrélation entre les deux?
Alors, tu veux répondre? Alors, l'énergie noire, c'est encore autre chose. Donc, l'énergie noire, elle aurait pas de masse. L'énergie noire, ce serait une énergie qui serait présente en tout point de l'univers. On pourrait la voir comme une énergie du vide, un peu, qui agirait comme une pression négative, comme une anti-force gravitationnelle qui ferait que l'univers s'étend. Donc ce serait aujourd'hui à cause de l'énergie noire que l'univers s'étend. Mais on ne connaît pas du tout la nature de cette énergie noire. Il y en a qui disent que c'est juste une constante dans une équation. Donc ce serait une énergie du vide, on pourrait le voir comme une énergie du vide. Il y a plusieurs théories pour ça. Ça explique l'expansion de l'univers, mais ça explique pas la dynamique des galaxies, ça explique pas tous les problèmes qu'on a évoqués. Je crois pas qu'il y ait de lien direct entre les deux. Le lien, c'est qu'on les connaît pas, les deux. Et qu'il y a noir dedans. Mais peut-être qu'il y a d'autres liens. Après, c'est pas trop mon sujet.
Il y a le temps pour encore une à deux questions maximum.
Oui, c'est sur les trous noirs primordiaux. Est-ce qu'on pourrait les détecter par les ondes gravitationnelles?
Oui, et bon, bah, ça c'est tout.
Oui. En fait, les trous noirs primordiaux, c'est quelque chose qui a été théorisé il y a longtemps. C'était un sujet qui avait été presque un peu oublié. Et en 2015, on a eu donc les premiers détecteurs d'ondes gravitationnelles qui ont fonctionné et qui ont détecté les premières ondes gravitationnelles. Et à partir de ça, en fait, ça a donné vraiment un nouvel élan à cette théorie des trous noirs primordiaux, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces trous noirs, dans ces fusions de trous noirs, bah, on avait des fois des candidats qui pourraient être des trous noirs primordiaux en fonction de leur masse. Parce qu'en gros, pour faire simple, pour calculer, pour détecter des trous noirs, enfin pour détecter des trous noirs avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles, ce qu'on détecte en réalité, ce sont des fusions de trous noirs. Donc on a deux trous noirs qui vont graviter l'un par rapport à l'autre, très très vite, de plus en plus vite, jusqu'à fusionner et ne créer qu'un trou noir. Et ça, ça va déformer en fait l'espace-temps, et cette déformation, elle va se propager comme une vague qu'on va pouvoir détecter sur Terre avec ce type d'engin-là. Et si on a un trou noir primordial, bah il peut aussi fusionner avec un autre trou noir. Et à partir de nos détecteurs d'ondes gravitationnelles, on peut remonter à la masse du trou noir. Enfin, à la masse des trous noirs qui ont fusionné. Et à partir de ça, on peut établir des contraintes, parce que on a des contraintes sur les types de trous noirs et pouvoir peut-être un jour dire avec certitude qu'on a observé un trou noir primordial. Parce que pour l'instant, on ne sait même pas s'ils existent, les trous noirs primordiaux. Donc on essaye de mettre en évidence leur existence en ayant le plus possible de détection de fusion de trous noirs pour dire un jour, ça, cette signature-là, c'est un trou noir primordial. Pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. On a des candidats de trous noirs qui pourraient être des trous noirs primordiaux, mais on n'a pas encore de consensus là-dessus. Mais peut-être dans un futur proche, parce que les détecteurs d'ondes gravitationnelles détectent de plus en plus de fusions. Et ça marche très très bien avec la nouvelle phase, notamment des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc pourquoi pas dans le futur. Donc c'est un des axes de recherche de matière noire.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien...
Il va y avoir. Elle est en développement, ça s'appelle LISA, et c'est pareil, c'est un interféromètre, et ça va envoyer des détecteurs à des millions de kilomètres les uns des autres pour justement détecter ces déformations de l'espace-temps. Donc c'est une expérience qui est absolument dingue quand on voit que ça va être à des millions de kilomètres et qu'ils vont pouvoir détecter le passage d'ondes gravitationnelles. Donc je ne sais plus quand est prévu le lancement, mais ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est encore, ça va arriver dans les années qui viennent. Et peut-être qu'on pourra détecter des nouvelles choses avec ça.
Parce qu'en fait, les trous noirs primordiaux, il faut comprendre qu'ils peuvent avoir une masse qui est extrêmement petite, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire quelques kilos. Là où un trou noir qui a un effondrement stellaire pour origine, il va être beaucoup plus gros. Donc on peut les distinguer comme ça. Si on a des trous noirs qui semblent trop peu massifs pour provenir d'un effondrement d'une étoile, on va se dire, ah, ça peut être un trou noir primordial. Donc bon, ça peut être aussi des trous noirs très 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 massifs. En fait, on a une large gamme, et c'est pour ça que c'est un bon candidat. Parce qu'on a plein de possibilités, et voilà.
Il nous reste 2 minutes. Je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin. Et quel message vous souhaiteriez-vous avec lequel nous repartions?
Alors, si un message, peut-être, en tout cas pour moi, après tu feras passer le tien, mais que c'est la physique, c'est un domaine en pleine dynamique. Donc, il y a plein de choses qui se passent. On a des expériences qui apparaissent aux quatre coins du monde. Parce que souvent, on a l'image un peu du physicien qui est dans son bureau en train d'écrire des équations et qui essaye de chercher un peu tout seul. Il faut bien comprendre que la physique, c'est pas ça. La physique, c'est à la fois des gens qui sont dans leur bureau et qui travaillent, qui créent des théories, qui proposent des choses, mais c'est aussi des gens qui cherchent à démontrer ces choses-là ou à même trouver de nouvelles choses. Et que c'est qu'en alliant toutes les caractéristiques, toutes les compétences de chacun, mais que ce soit des chercheurs, des chercheuses, des techniciens, des techniciennes, des ingénieurs, qu'on a besoin de tous ces gens-là pour essayer de percer les mystères de l'univers, et que c'est en travaillant tous ensemble qu'on arrive à avoir des expériences comme ça et qu'on arrive à faire des avancées en physique, et que c'est plutôt un message d'espoir pour l'avenir. On espère comprendre tous les problèmes qu'on vous a montrés là et percer un jour les mystères de l'univers.
Ouais. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Hein. Donc, Léo est un expérimentateur, je suis une théoricienne, mais sans les expériences, on ne peut pas faire de théorie. Et sans la théorie, on ne peut pas interpréter les expériences. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et comme Léo l'a dit, les techniciens, les techniciennes, les ingénieurs vont permettre d'avoir accès à ces expériences-là. c'est très intéressant de travailler tous ensemble. Merci de nous avoir écoutés.
Merci Margot, merci Léo infiniment pour cette présentation brillante, même si je pense pas avoir tout compris, mais ça c'est pas le problème. En tout cas, j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir rapidement à la Galerie Eureka. En tout cas, bonne chance pour la présentation de votre thèse en 3 minutes, c'est même pas moins 3 minutes, c'est 3 minutes précises, et donc on vous reverra au mois de mars pour de nouvelles aventures. Merci infiniment, prochain rendez-vous c'est ce samedi, et on redescend dans notre système solaire pour une découverte de Mars avec le club Paul Gidon pour une conférence à deux voix qui se déroulera ici même à 15h. Donc vous pouvez prendre le programme de l'exposition Mars, vous retrouverez tous les événements. Et pour notre entremidier science, il aura lieu précisément dans un mois quasiment. Et là, nous irons dans nos montagnes et nous intéresserons au tourisme en montagne et nous parlerons un peu plus précisément de nos stations de ski. Voilà, merci à vous et à très bientôt.